Vous écoutez IDFM, il est 10h.
Bonjour à toutes et à tous, Audrey Lamolly et je suis ravie de vous retrouver sur IDFM dans l'émission La Parole aux Associations, une émission dédiée aux associations et à ceux qui les font vivre. Cette semaine, je reçois l'association humanitaire Aubonnaise Ensemble pour le développement de la santé en Guinée, qui se donne pour objectif de développer les moyens de santé en Guinée, notamment par l'information, le don de matériel ou encore la formation. Pour nous parler de l'EDSG, j'accueille ce matin Delphine Cadeau, secrétaire générale et cofondatrice de l'association. Bonjour Delphine.
Bonjour Audrey.
Au sommaire de cette émission, je vous propose d'abord de découvrir notre invité dans la rubrique Portrait d'engagé. Puis Delphine nous présentera plus concrètement ce que fait l'association et enfin nous reviendrons sur votre prochain grand projet. Alors tout d'abord, je vous propose de faire votre portrait d'engagé, si vous en êtes d'accord.
Avec plaisir.
C'est parti Delphine. Alors est-ce que vous pourriez, c'est la question que je pose à chaque invité de l'émission, est-ce que vous pourriez nous présenter pour commencer un peu votre parcours en dehors de l'association, qui vous êtes, d'où venez-vous?
Ok. Donc, mon parcours est assez simple. Après mon baccalauréat, j'ai fait une année de préparation au concours d'entrée en école d'orthophonie, que j'ai eu notamment à l'école de Paris. J'ai fait mes 4 années d'études, puisqu'à l'époque, c'était 4 années, c'est passé à 5 quelques années après. Et j'ai été diplômée en 2010. Et ensuite, je suis arrivée, j'ai fait toujours un exercice mixte, donc c'est-à-dire une moitié en exercice libéral, en cabinet, et ensuite une moitié en salarié. Donc j'ai commencé un an dans une clinique privée à Pierrefitte, et je suis arrivée au centre hospitalier de Gonesse en neurologie en janvier 2012. Donc ça va faire 11 ans que j'y travaille. Et puis en parallèle, je travaille donc à Hermont-Aubonne, dans un cabinet que j'ai créé avec mon associé qui était ma binôme de mémoire d'ailleurs.
Et alors justement, est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur le métier d'orthophoniste ? Je crois qu'il y a un champ d'intervention hyper large. On pense peut-être à l'orthophonie, l'accompagnement à la diction pour les enfants, mais en fait, vous intervenez dans plein de champs.
Exactement. On a encore un peu, certains ont encore la vision que l'orthophoniste est pour bien répéter des syllabes, alors que c'est beaucoup beaucoup plus large. On peut avoir vraiment des patients depuis la naissance jusqu'aux personnes âgées. Et on peut intervenir dans énormément de champs, donc auprès des bébés, dès la néonatalogie, pour travailler autour du réflexe de succion et de déglutition. Du coup, pour tout ce qui va être autour des troubles de l'oralité alimentaire, hein, on va travailler auprès des tout-petits qui ont des syndromes génétiques, des troubles du spectre autistique. On va travailler avec des plus grands autour de la dyslexie dysorthographique, qui est un peu plus connue de tous. On peut travailler avec les enfants sourds, avec les personnes bègues, et puis auprès des adultes qui ont des troubles de la voix, qui ont des troubles neurologiques, AVC, tumeurs, maladies neurodégénératives, et auprès des personnes âgées.
Et vous accompagnez les mêmes publics, que ce soit en cabinet ou à l'hôpital ?
Alors, moi, à l'hôpital, je ne suis exclusivement que des patients qui viennent de faire un AVC. En cabinet, j'ai un peu plus de variété, même si au fur et à mesure des années, en fait, vu l'énorme et large champ d'intervention, on est obligé en formation continue, de se spécialiser, même si on doit normalement rester un peu généraliste. Donc là, je reçois des tout-petits, des enfants et des adultes en cabinet. Mais à l'hôpital, je ne reçois que des adultes qui viennent de faire un AVC.
Et alors, Qu'est-ce qui vous a donné envie d'être orthophoniste? Est-ce que c'est vous avez vu de la lumière, vous y êtes allé, ou est-ce que c'est une vocation?
Alors, en fait, du coup, ça, c'est un peu, c'était dès toute petite. Ça semble un peu bizarre quand on le dit maintenant adulte, hein, mais en fait, dès toute petite, puisque moi-même, j'étais allée faire quelques séances d'orthophonie. Puisque je ne prononçais pas les R, j'espère que vous avez pu remarquer que ça avait très bien fonctionné.
C'est très bien, les résultats sont là.
Voilà. Et puis je pense que naïvement, avec la candeur d'un enfant, j'ai dit bah je vais être comme toi, à mon orthophoniste. Et puis je pense que par la suite, têtue comme je suis, bah du coup je suis restée dans cette idée. J'ai pu faire des stages en troisième et en seconde, parce que à l'époque c'était plus autorisés que maintenant, qui m'ont confirmé que c'était bien ça qui me plaisait. Et puis après, le reste de ma formation l'a convaincu. Quoi.
Et alors justement, là c'était sur votre métier, mais vous avez aussi co-créé, co-fondé donc, l'association Ensemble pour le développement de la santé en Guinée. Pareil, est-ce que d'abord c'est la première fois pour vous que vous étiez cofondatrice d'une asso ou vous avez déjà créé des associations?
C'était une première.
Alors comment est-ce que vous nous racontez le contexte? Comment
Parce que c'est
très spécifique.
Ouais.
C'est la Guinée, c'est un pays en particulier.
Voilà, c'est la Guinée, c'est la santé. Alors en fait, comment ça s'est passé? Moi, depuis mes études, j'avais toujours une envie de faire de l'humanitaire. Étudiante, je pensais plutôt à participer à des chantiers pour créer des écoles ou autres. Et puis cette idée m'est restée et en fait, on était en pleine discussion du coup avec le cofondateur qui est le président de l'association, Dr Nabi Camara. On était en pause et on était en train de discuter. Lui me racontait son désir profond de continuer à aider son pays depuis la France en termes de matériel et de contenu de formation. Et moi, je lui racontais que moi, l'humanitaire, ça me bottait vachement et que c'était vraiment quelque chose que je voulais faire. Et puis, en cours de discussion, on s'est un peu regardé. Et en fait, je pense que l'idée était évidente pour tous les deux d'allier nos désirs et nos envies profondes et en même temps de se servir au final de nos métiers respectifs.
Et lui, il est neurologue et vous, orthophoniste.
Exactement.
Dans le même service à l'hôpital de Gonesse.
Exactement. Et donc, du coup, on a allié un peu tout ça. Et ça a donné naissance à l'EDSG. Et pourquoi la Guinée? Parce que, du coup, il est guinéen. Et on s'est dit que c'était mieux déjà de démarrer avec un pays pour lequel on avait déjà en fait un peu un pied sur place avec des contacts, des partenaires faciles à obtenir, etc.
Alors vous allez nous expliquer un peu tout ça, comment vous fonctionnez, mais la Guinée, du coup, vous connaissiez un petit peu? Vous êtes déjà allé en Guinée ou
Alors pas du tout. Je connaissais pas plus que ça la Guinée. Hein. J'aurais pas pu la situer sur une carte. J'y suis toujours pas allée. Hein. C'est en projet, mais en fait c'est pas si évident et on en reparlera. Mais non, je ne connaissais pas. C'est eux qui m'ont, c'est lui et ensuite les autres membres qui m'ont un petit peu fait connaître.
Alors ça se situe où sur la carte la Guinée?
Alors attention, la Guinée. Alors déjà il y a trois Guinées, donc ne nous perdons pas. Il y a la Guinée-Bissau, la Guinée équatoriale et la République de Guinée. Et nous pour l'instant on travaille avec des partenaires qui sont en République de Guinée. Et donc c'est un pays sur la côte ouest de l'Afrique occidentale. Et je crois que les pays limitrophes sont il y a le Mali, le Sénégal et un autre que j'ai dû oublier.
Je sais pas, Burkina, non, Bénin. Bon, on a vu, on voit où c'est à peu près.
La Côte d'Ivoire,
voilà. Alors du coup, ok, la Guinée, on comprend pourquoi. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu des conditions peut-être sanitaires, médicales, d'hospitalisation en Guinée? Parce que j'imagine que si votre collègue et cofondateur de l'association, a envie de continuer à aider son pays. Est-ce que j'imagine que c'est qu'il doit y avoir des gros manques?
Ouais, tout à fait. En fait, la Guinée, je pense, est un des pays d'Afrique qui, certes, a des sous-sols extrêmement riches en bauxite, en fer, en diamants, etc. Mais je crois est l'un des pays les plus pauvres du monde. Et forcément, le système de santé là-bas est très très loin de ce que nous connaissons. Faut savoir que là-bas, il y a à peu près un lit d'hospitalisation pour 3600 habitants. Pour donner des normes OMS, c'est un lit pour 1000 habitants. Habituellement. D'accord. Donc la différence
c'est déjà
est quand même...
Beaucoup. Enfin, c'est déjà peu, un lit pour 1000 habitants.
Voilà, bah, un lit pour 3600, c'est encore plus compliqué. Mm-hmm. Ils n'ont à la fois pas les mêmes infrastructures matérielles, c'est-à-dire que là-bas, il n'y a pas ce qu'on connaît, des chambres individuelles, avec des lits médicalisés, ils peuvent être entre facilement 6 voire 8 patients par chambre. Les lits sont parfois des planches de bois, quoi. Et si la famille a un petit peu d'argent, bah, du coup, ils ramènent limite leur propre matelas. Ils n'ont pas du tout les lits médicalisés. Il n'y a pas accès à tous les examens comme nous, on y a accès. Déjà, il y a moins de matériel biomédical. Il n'y a pas forcément toutes les imageries, IRM, scanner, etc. Et puis après, il faut payer en plus pour avoir accès à ces appareils.
Oui, il n'y a pas d'assurance maladie, de mutuelle. Voilà, donc, on paye avant et ensuite, on voit si on peut être soigné.
Exactement. Et par exemple, dans le cas de l'AVC, qu'on vit au quotidien en service de neurologie, faut savoir que quand on fait un AVC, chaque minute compte, hein, c'est vraiment les slogans de prévention. Et donc, en France, le patient arrive aux urgences, passe à l'IRM, est hospitalisé, a son traitement pour essayer de dissoudre le caillot. Eh bien, il faut savoir qu'en Guinée, le patient arrive, s'il peut arriver jusqu'à l'hôpital national, et on lui demande de payer, et ensuite on l'hospitalise.
Oui, donc il y a beaucoup d'attentes et beaucoup de conditions avant d'être soigné.
Exactement.
Et donc j'imagine qu'il y a assez peu de cliniques ou d'hôpitaux.
Alors c'est très divisé. Voilà, les cliniques, ça va être vraiment pour les populations les plus riches, qui sont du coup un peu plus fournis et en matériel et en soignants. Et puis les hôpitaux nationaux, déjà, ils sont centralisés. Il n'y en a que deux en Guinée.
C'est un grand pays, la Guinée, ou c'est plutôt...
Je crois que c'est dans les 300 000 km². Je me représente pas, mais... Donc, mais c'est plus petit que la France, je crois. Ouais. Et il y a les hôpitaux du coup nationaux et donc l'hôpital de Conakry avec qui on est partenaire. Et donc il y a à la fois peu de matériel et en plus peu de soignants. Et il faut savoir qu'il y a plein de métiers que nous on connaît, mais que là-bas ça n'existe pas, et notamment le mien. Il n'y a pas d'orthophonie là-bas, il n'y a pas de kiné, il y a très peu de kinés là-bas. Il n'y a pas d'infirmières spécialisées, notamment dans le suivi post-AVC. Et puis, il n'y a pas tout ce qui va être psychomotricité, ergothérapie, tous les métiers
tout
de la rééducation,
aussi,
en fait.
Oui. Exactement. Le après intervention médicale.
Exactement.
Merci beaucoup d'avoir bien voulu nous en dire un peu plus sur vous et sur l'association. Je vous propose de poursuivre notre conversation et de découvrir plus concrètement ce que fait l'EDSG juste après avoir écouté Pierre de Maher avec Un jour je marierai un ange sur IDFM, à tout de suite.
Docteur, un jour je marierai un ange. On fera l'amour dans les nuages, en priant pour que rien ne change. Tu sais, une histoire ancrée dans les âges. Et docteur, un jour je marierai un ange. On fera l'amour dans les nuages, en priant pour que rien ne change. Et ici l'amour c'est beaucoup beaucoup trop superficiel. On fait que te répéter un jour il tombera du ciel. Et c'est toujours le même discours, de belles paroles, bientôt vous serez à court. Non, aussitôt que le jour se lève, je m'en vais faire tout et je rêve que plus rien ne bouge sauf nos lèvres. Je m'élève, et aussitôt tôt que le jour se lève. Je m'en vais faire tout, je rêve d'un amour n'existant pas, qui pourtant m'attrustera. Docteur, un jour je marierai un ange, on fera l'amour dans les nuages, en priant pour que rien ne change. Tu sais, une histoire ancrée dans les âges. Et docteur, un jour je marierai un ange, on fera l'amour dans les nuages, en priant pour que rien ne change, ne change. L'amour c'est beaucoup beaucoup trop conceptuel. On fait que te répéter, les hommes, les femmes sont si cruels. Et c'est jamais comme au cinéma. Décidément on est moins beau loin des caméras. Aussitôt que le jour se lève, je m'en vais faire tout et je rêve que plus rien ne bouge sauf nos lèvres. Je m'élève, hey. Aussitôt que le jour se lève, je m'en vais faire tout et je rêve d'un amour n'existant pas, qui pourtant m'attristera. Docteur, un jour je marierai un ange, on fera l'amour dans les nuages, en priant pour que rien ne change. Tu sais, une histoire ancrée dans les âges. Et docteur, un jour je marierai un ange, on fera l'amour dans les nuages, en priant pour que rien ne change, ne change.
Vous êtes toujours sur IDFM dans l'émission La Parole aux Associations. Je reçois ce matin Delphine Cadeau de l'association humanitaire Ensemble pour le développement de la santé en Guinée. Alors tout d'abord, est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus, Delphine, sur la composition de l'association ?
Oui, tout à fait. Alors du coup, on a trois membres du bureau qui sont du coup Nabi Camara, moi-même, et Émilie Poulain, qui est la trésorière et qui est infirmière en suivi post-AVC. Et ensuite, on a, on va dire, un noyau de membres très actifs, Christine, Zara, Aïssata et d'autres. On a quelques membres d'honneur qui nous aident bénévolement pour en termes de communication, en termes de voilà mise en image, en termes de développement de notre site, sur toutes ces compétences qui ne sont pas forcément les nôtres de prime abord. Et puis après, on a nos donateurs. On a pas mal de donateurs réguliers. Donc voilà.
Alors, on a compris que le DSG, l'objectif, c'est de venir en aide d'un point de vue médical, sanitaire en Guinée. Votre première grosse action, activité, je crois, c'est celui de récupérer du matériel. Alors, médical, paramédical, les deux, je ne sais pas, vous allez nous en dire un peu plus. Et puis ensuite, de l'emmener, le transporter jusqu'en Guinée.
Exactement, c'est une de nos missions principales. Donc, en fait, on a plusieurs partenaires qui nous, chez qui on récupère en fait du matériel médical, paramédical, biomédical, pharmaceutique, excusez-moi, qui serait voué à la destruction. Parce que ils renouvellent leur matériel, parce qu'ils achètent de nouveaux appareils plus performants, etc. Donc ils se
donc ils sont voués à la destruction, mais ils sont en état d'usage et
totalement en très très bon état d'usage, totalement fonctionnel, pas du tout abîmé ni rien, parce que c'était pas du tout le but. Hein. On envoie du matériel en bon état et fonctionnel. Et donc, notre principal partenaire est le centre hospitalier de Gonesse, qu'on remercie profondément parce que on a pu récupérer énormément de lits médicalisés. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est quelque chose qui n'existe pas là-bas et qui a un vrai impact au-delà du confort. Il y a une vraie dimension de soins dans le lit médicalisé, on n'y pense pas forcément, on pense juste au côté je me redresse et je me rabaisse, alors que pas du tout. Par exemple, après un AVC, il est très important de pouvoir en fait justement ajuster le degré de redressement des patients selon ce qu'ils ont, selon où est le caillot, et puis tout simplement parce qu'on a besoin de redresser les patients pour les alimenter. Donc en fait, juste le fait qu'ils puissent pas se redresser aussi facilement que chez nous, ça peut entraîner beaucoup plus de troubles au niveau de la déglutition, beaucoup plus de pneumopathie d'inhalation, d'infection, etc.
Et puis pour le personnel médical aussi, quoi.
C'est beaucoup plus facile, en effet, de mobiliser et de manutentionner les patients avec des lits médicalisés. Donc on en a récupéré beaucoup. On a récupéré des fauteuils aussi, parce que là-bas, il n'y a
des
pas
de... Des fauteuils roulants?
Oui, vous savez, alors déjà, les fauteuils médicaux qu'il y a dans les chambres d'hospitalisation, puisque là-bas, il n'y a pas non plus de brancardier. Donc, en fait, les patients, pour aller à des examens, ils sont limite portés par leur famille. Donc, les fauteuils permettent des transferts beaucoup plus faciles. On a envoyé des fauteuils roulants, en effet, avec tout ce qui va être aussi déambulateurs, cannes, béquilles, etc. On a envoyé du matériel pharmaceutique. En fait, les laboratoires pharmaceutiques donnent des cartons pour essayer des kits d'aiguilles, des kits de perfusion, etc. Mais quand l'essai est terminé, du coup, tout ce qui reste, en fait, est mis de côté. Voilà. On a envoyé du matériel informatique qui était en état de fonctionnement et qui a permis, en fait, de mettre en place un archivage là-bas.
Puisque un suivi des patients.
Exactement, parce que jusqu'à présent, tout était en manuscrit. Et là, ça a permis de mettre des dossiers informatiques.
Est-ce que vous récoltez des médicaments?
Alors, non. On peut récolter des médicaments, mais des médicaments non périmés.
Oui.
Voilà.
C'est une information, voilà. Oui. J'allais vous demander s'il y avait des normes à respecter. Quand il y a est-ce qu'il y a des critères pour les dons de matériel médicaux?
Alors voilà, le seul critère, ça va être autour des médicaments, que ce soit non périmé. Et puis, bien évidemment, tout ce qui est pharmaceutique, faut que les kits soient bien fermés. Ce sont des kits stériles, donc il faut qu'ils soient juste correctement fermés et que ni la récupération ni le transport ne les endommagent.
Vous n'avez pas de mauvaise surprise quand on vous donne du matériel, globalement, il est aux normes.
Ouais, tout est.
Mais sinon, il n'y a pas d'autres règles que ça pour le matériel. Peut-être limiter aussi le matériel qui nécessite beaucoup d'électricité, peut-être. J'imagine que. Alors, c'est bien d'avoir plein d'ordinateurs, mais encore faut-il pouvoir les brancher.
Ouais. Alors ça, dans tous les cas, ça avait été tout avait été un peu trié. Mais après, les ordinateurs, c'était facile parce que comme il y en avait quasiment pas, il y avait vraiment beaucoup de services à fournir. Donc ça, c'était bon. Et puis, par contre, les fauteuils, on a réussi, je crois, à avoir un ou deux fauteuils électriques. Mais au final, on les a pas pris parce qu'au niveau de la batterie ou après, pour tout ce qui est recharge, etc., ça aurait été compliqué.
Oui, c'est encore faut-il que ça puisse être bien
utilisé. Il faut que ça réponde aux réalités du terrain, quoi.
Et alors, justement, est-ce que vous... Peut-être vous en êtes pas encore là, mais vous vous retrouvez pas avec, par exemple, je sais pas moi, trop de fauteuils et pas assez de seringues. C'est souvent ce qui peut arriver à un moment donné dans les grandes collectes de dons où on se retrouve avec trop de cartables et pas assez de cahiers, par exemple.
Et bien du coup, pour le moment, tout était bon, mais en effet, comme on a déjà envoyé au moins 5 ou 6 frettes, là, c'est posé la question. Donc là, on commence à recenser réellement ce qu'ils auraient davantage besoin et ce sur quoi on peut mettre un peu plus de côté. Donc on commence, ça y est, à trier un peu plus ce qu'on va récupérer.
Et votre partenaire, c'est l'hôpital de Gonesse? Est-ce que vous avez d'autres partenaires?
Alors oui, donc le principal, c'est l'hôpital de Gonesse, mais on a également, on a collaboré plusieurs fois avec l'IEM de Gonesse. Alors je vais essayer de pas écorcher le nom, c'est l'IEM Madeleine Falkenberg. à Gonesse. Donc c'est un établissement qui accueille des enfants et adolescents présentant une infirmité motrice cérébrale ou autre handicap. Et donc du coup, pareil, ils avaient énormément de fauteuils roulants, d'aide à la verticalisation et du matériel, enfin du coup d'aide aussi un peu plus pédiatrique. Donc là, du coup, on a récupéré et on les a envoyés. Du coup, ça a permis aussi de toucher d'autres services de l'hôpital de Conakry. Et puis, c'était un très, très chouette projet parce que l'établissement s'en est servi pour faire tout un projet pédagogique autour de ça. Un travail sur la Guinée, un travail sur la santé, un travail sur le voyage, le transport, etc. Donc, c'était une chouette collaboration. On a aussi eu des dons de l'association Les Bouchons d'Amour du Val d'Oise qui récolte tout type de bouchons pour ensuite en faire du matériel, des fauteuils ou autres, qui nous avait donné quelques fauteuils roulants, j'imagine qu'on leur avait redonné. Et puis après, on a aussi des dons soit de pharmacie, soit d'infirmières libérales qui nous donnent du matériel pharmaceutique.
Alors là, c'est la partie, je dirais, matérielle, mais j'imagine que derrière, il y a un énorme travail d'anticipation et de logistique. Tout ce matériel, là, en termes de quantité, je me rends pas bien compte, c'est énorme. Vous stockez, vous emmenez où ? Vous avez un camion ?
Alors, on a deux grands box de stockage. Déjà, parce qu'il faut savoir qu'il y a la partie déjà récupération, donc c'est des entretiens avec les établissements ou les personnes qui sont qui veulent donner. On fait un peu l'inventaire de ce qu'on va prendre, de ce qui serait pertinent pour les dons. Et ensuite, il y a toute la phase de récupération, donc on loue des camions pour aller récupérer le matériel et l'emmener jusqu'au box de stockage. Et puis après, il y a la dernière étape qui est d'amener, toujours par camion, le contenu du box de stockage vers le fret qui part ensuite pour la Guinée, pour quelques semaines de bateau jusqu'en Guinée.
Et donc ça, c'est vous, les bénévoles, les membres actifs.
Oui, c'est les membres actifs où on s'organise.
Ces transactions.
Exactement.
Et alors, justement, une fois qu'ils sont mis dans des containers, j'imagine, comment ils sont réceptionnés, je dirais, en Guinée ? Alors, est-ce que c'est un hôpital, l'hôpital de Conakry dont vous nous parlez, qui a une équipe déjà sur place, ou est-ce que vous y allez ?
Non, non, non. Alors en fait, déjà on a un partenaire de fret qui nous a déjà amené du matériel, quelques cartons par-ci par-là pour combler en fait des containers que lui envoyait. Déjà ça nous permet d'envoyer un peu plus de choses en étant moins contraint par les moyens financiers. Et puis après, quand on envoie du matériel, il est réceptionné en fait par les équipes eux-mêmes, les équipes médicales elles-mêmes de l'hôpital.
Oui, vous avez un partenariat. Pour l'instant, vous n'intervenez que, je mets entre guillemets, que oui. L'hôpital de Conakry. Vous nous avez parlé de deux hôpitaux nationaux.
Voilà.
Donc là, c'est
pour l'instant que sur l'hôpital national de Conakry, qui est, je crois, le plus grand.
Et vous savez à peu près combien, juste pour avoir un ordre d'idée de coûts, envoyer deux boxes matériel.
Alors le souci, c'est qu'en plus ça va dépendre parce que là forcément on avait beaucoup de lits médicalisés par exemple à envoyer, donc ça c'est beaucoup plus compliqué, enfin c'est beaucoup plus de coûts pour les envoyer. Donc ça, je crois qu'on en a toujours en fait à envoyer parce que en fait ça va être une question de poids, de volume, donc en fait on sélectionne. Mais pour l'instant, on a dû faire au moins, je pense qu'on on doit en être à 6-7 frettes. Et c'est à peu près, on est sur à peu près 1300-1500 euros par fret.
Ouais, c'est un vrai coût, quoi.
Ouais.
Et vous avez réussi un petit peu à récupérer des dons, je sais pas trop comment on appelle ça, de matériel d'examen.
Oui, on a...
Pas forcément un scanner, mais...
Ouais, on a envoyé un échographe.
D'accord.
On a envoyé un échographe. Donc ça, c'était.
Ça aussi, ça prend de la place, tous ces.
Ça prend de la place.
Grandes machines.
Mais c'était du coup, voilà, comme les lits médicalisés, c'était les vrais dons où on sait que ça va vraiment changer un fonctionnement, quoi.
Merci Delphine. Je vous propose de poursuivre notre conversation juste après avoir écouté Secret Rhythm d'Aylen. On revient juste après sur IDFM.
Secret rhythm, lost bullet, hide the truth, no time for respect. Whatever you eat, whatever you smell, has the taste of my revenge. Get a dab and scream against the power, it's always the same shit. No need for flowers, dresses or diamonds, even your mask won't keep me silent. I'm gonna fight for my freedom. Won't let this happen to my children. Leave yourself for now, it's now or never. You have to fight, or you'll never get the chance to choose. Message getting me confused. Like to take it for a fool. Ain't no need for someone. Watching the news and stand up for your rights now. Stand up for your rights now. Stand up for your rights now. Can't even sit on the grass. If you do, they'll kick your ass. In this new world that we built, we have to fight for everything. Don't you wanna be a part of this? I have to fight, or you'll never get the chance to choose. Message getting me confused. Like to take me for a fool. Ain't no need for someone new. Stop watching the news and stand up for your rights now. Stand up for your rights now. Stand up for your rights.
Toujours sur IDFM en compagnie de Delphine Cadeau de l'association Ensemble pour le développement de la santé en Guinée. Alors Delphine, vous nous avez bien expliqué les conditions d'hospitalisation en Guinée, tout le travail que vous faites de récupération de matériel pour l'envoyer à l'hôpital de Conakry, un des deux hôpitaux nationaux de Guinée. J'ai une question qui me vient. Avant de parler de comment vous financez ça, ce qui est une autre partie de votre activité de l'association, comment ça s'est passé la crise sanitaire en Guinée, et pour les Guinéens, et pour vous ?
Alors du coup, la crise sanitaire s'est passée comme un peu partout dans le monde, légèrement en décalage quand même par rapport à la France.
Ça veut dire quoi en décalage ? Ça veut dire...
Pas dès mars 2020.
Oui, ça arrivait un petit peu après.
Exactement. Et en fait, du coup, l'anecdote de la crise sanitaire, c'est qu'en fait, on avait fait partir juste avant le confinement, on avait fait partir un fret qui contenait, entre autres, du matériel pharmaceutique et notamment tout un lot de masques qui étaient périmés. Et dont l'hôpital, s'était débarrassé. Et donc, en fait, le fret est arrivé au moment du confinement et donc au moment du début de leur crise sanitaire. Et donc, en fait, ils avaient, du coup, plus de masques
que nous. Mais alors, attendez, un masque périmé, c'est-à-dire... Ouais. Je ne savais même pas qu'il y avait...
Tout matériel pharmaceutique, tout a une date de péremption. Et donc, du coup, voilà. Donc, c'était l'anecdote...
Donc ils étaient équipés en masque.
Ils ont été du coup équipés en masque, en gants, etc. Parce qu'ils venaient juste en fait de recevoir le fret au moment du début de leur crise sanitaire.
Bon, alors ils étaient partiellement équipés, mais du coup en Guinée la crise sanitaire, il y a eu des effets. Est-ce que la vie quotidienne s'est arrêtée comme chez nous ou finalement...
Non, j'ai l'impression que ça a été de moindre mesure quand même que chez nous. Est-ce que c'est parce que c'est moins dense, il y a moins, mais ça a été moins important ou du moins avec une gravité moins importante que chez nous.
Alors justement, je parlais de votre deuxième grosse activité au sein de l'EDSG, qui est de financer, trouver des sous pour pouvoir payer les frettes, toute l'essence, les locations de camions, de box de stockage.
Oui.
Du coup, vous faites comment ?
Alors, on fait comment ? On fait des campagnes de crowdfunding au moment de l'envoi des gros frets. Voilà.
Donc là, c'est du financement participatif, c'est
exactement.
Ça ?
Exactement. On fait appel à nos donateurs réguliers et à des donateurs occasionnels ou à toute bonne personne qui veut donner un petit peu. Et régulièrement, en fait, depuis qu'on est installé sur Aubonne, on participe... aux événements associatifs de la ville d'Aubonne et que je remercie aussi parce que l'équipe associative de la municipalité est super active, dynamique et très soutenante et nous a vraiment bien aidé en termes de projets et d'événements.
Mais par exemple, vous avez fait quoi comme événement ?
Alors du coup, on a participé à un été à Aubonne. Qui se situe tous les étés, hein, le titre parle de lui-même. Et on a participé, donc c'était notre deuxième participation à l'hiver à Aubonne, lors du marché de Noël.
Et vous faites quoi ?
Et bien du coup, on propose un stand de restauration. Et donc on a une de nos membres actives qui prépare des plats africains absolument délicieux. Donc on vend des plats africains, des spécialités... Et puis voilà, des petites confiseries sucrées, boissons, vins chauds, etc.
Et alors, qui sont vos donateurs ? Vous nous avez dit... alors, qui sont ? C'est pas je veux des noms, hein, mais c'est votre entourage ? C'est des gens inconnus ? Qui sont-ils ? Parce que vous, je crois que c'est votre unique financement pour le moment.
Oui.
Les collègues de dons en numéraire via les campagnes de financement participatif. Donc c'est hyper important, encore plus que s'il y avait d'autres financements.
Ouais.
Et en plus, vous en faites régulièrement. Donc ces donateurs, c'est votre réseau, c'est votre famille, c'est...
Alors du coup, lors des événements municipaux, c'est tous les Aubonnais et je dirais même les Valdoisiens qui passent par là. Mais nos campagnes de dons sont quand même largement financées par un entourage, donc famille et amis, qui soutiennent le projet vraiment activement et que je remercie pleinement de croire en nous et du coup de nous aider aussi à avancer, à se développer et à financer du coup ces frettes.
Et alors, faire une campagne de financement participatif, c'est pas si simple que ça. Ça nécessite quand même une certaine méthodologie, un certain savoir-faire. C'est compétences en interne, où il y a quelqu'un qui est super fort là-dedans ou...
Alors, autant vous dire que des professionnels de santé ne sont pas par vocation hyper doués.
Des web développeurs.
Voilà, ne sont pas doués dans le web, l'informatique, ne sont pas forcément doués dans le conseil en images, dans la valorisation, un peu le côté négociation, commerce et
en
communication.
En tout cas, de vendre, guillemets, avec les bons sens, le bon sens du
exactement.
Du terme, le projet.
Donc, du coup, on s'est rapproché à la fois de personnes de notre entourage qui savent le faire et qui savent bien le faire. Et aussi, en parallèle, on s'est appuyé sur les formations en ligne de la plateforme HelloAsso pour apprendre un peu le maximum de choses pour bien organiser les campagnes de crowdfunding.
D'accord. Et là, il y en a une en cours ou pas encore ?
Eh bien, il y en a une qui va être lancée, puisque du coup, on a eu la confirmation qu'on pouvait émettre des reçus fiscaux. Donc, on va se servir de ce point d'appui-là pour lancer la prochaine campagne de crowdfunding, parce qu'on a deux box entiers qu'on aimerait bien envoyer, puisque du coup, là, on est un petit peu bloqué.
Ah oui, là, vous êtes à l'étroit et là, maintenant, il faut que ça parte.
Voilà, il faut que ça parte, puisqu'on a des partenaires qui sont en attente qu'on n'aimerait pas perdre. Donc il faut vider les box et pour ça il faut du coup avoir le montant.
Parce que quand vous dites on ne veut pas perdre des partenaires, c'est-à-dire que par exemple l'hôpital, un hôpital en général, il a un timing un peu, il ne va pas garder non plus un an
Non, voilà, en fait ils ont souvent quand ils veulent se débarrasser de choses, en fait ils ne vont pas garder, voilà, faut être assez réactif. Et en plus, si ce n'est pas pour notre association, ce sera pour une autre. Alors, c'est toujours bien, parce que ça sera toujours dans une bonne intention. Mais du coup, voilà, il ne faut pas louper le coche et il ne faut pas se faire un petit peu rayer de leur liste comme étant pas assez réactif, pas assez répondant, etc. quoi.
Et vous savez si l'hôpital de Conakry travaille avec d'autres associations françaises ?
Ou vous ne savez pas ?
Eh bien, pas à ma connaissance, en tout cas.
Merci Delphine, je vous propose de poursuivre notre conversation, que vous nous parliez de votre prochain grand projet pour le DSG juste après avoir écouté Pénélope Cruz de Marca. À tout de suite sur IDFM. Mon Dieu, qu'elle me touche, Pénélope Cruz.
je ne veux que la bouche de Pénélope Cruz.
Vous êtes toujours sur IDFM en compagnie de Delphine Cadeau de l'association Ensemble pour le développement de la santé en Guinée. Alors, juste avant la pause, je mettais du suspense sur votre prochain grand projet. De quoi il est question ?
Alors, on a pour grand projet, c'est l'une de nos autres missions principales, qui est la formation du personnel là-bas. Et donc, notre grand projet, c'est de constituer une équipe de professionnels qui va se déplacer sur place pendant une semaine et organiser, du coup, des sessions de formation. Alors, du coup, ça serait à la fois des sessions de formation pour le personnel soignant, que ce soit en neurologie, bien sûr, en orthophonie. Voilà. Alors, du coup, pas de l'orthophonie.
Vous allez toute seule, la Delphine, en orthophonie.
Voilà,
vous
voilà.
Allez.
Donc, je vais pas former des orthophonistes, mais du moins former les soignants, donc infirmières et médecins, sur les troubles de la déglutition après un AVC, les troubles du langage, etc. Comment on peut les dépister, comment on peut les accompagner avec leurs moyens à eux. Des sessions de formation et de prévention pour les familles des patients, puisque en fait, comme il n'y a quasiment pas de métier de rééducation, c'est la famille qui joue un gros rôle dans la récupération des patients. Donc là, pareil, c'est un exercice de style, hein, parce que c'est tout nouveau, hein, on n'est pas... c'est compliqué, enfin, ça demande un vrai travail, en fait, de proposer des choses sur une situation qu'on ne connaît pas, nous. Mais du coup, il faudra faire avec les moyens du terrain, avec donc les familles. Et le dernier axe de travail, ce sera de proposer de la formation et de la prévention, donc plutôt de l'information, aux tout venants sur l'AVC.
Et alors, c'est un projet qui devrait arriver quand, à peu près ?
Alors, du coup, il devait arriver là, dans les mois qui viennent. Il a été décalé, puisque du coup, en Guinée, il y a un régime politique de transition actuellement, depuis le coup d'État de 2020-T1. Et du coup, on attend que la situation, on va dire, s'apaise et nous permette de se déplacer sereinement et posément.
C'est ce que j'allais vous demander. Les politiques locales, pas forcément nationales, mais les entités politiques locales vous soutiennent ou soutiennent l'hôpital ? Il y a quand même localement, il y a une prise de conscience.
Alors, localement, tout l'hôpital de Conakry attend notre venue vraiment... très impatiemment,
mais par exemple la mairie, je sais pas si on parle de mairie, mais en tout cas l'autorité locale de Conakry, c'est bien une ville, hein,
ouais, la capitale.
Vous avez pas forcément de lien avec eux.
Pour l'instant, c'est en fait c'est indépendant de la volonté de chacun, quoi. Et il faut juste patienter.
Donc là, pour l'instant,
que le régime de transition passe.
Voilà, vous n'avez pas encore de date.
Exactement, on est en stand-by. Ça nous permet de bien avoir le temps de créer des contenus de formation adaptés aux conditions du terrain et adaptés aux soignants et à la population.
Et un kiné, une infirmière, c'est ça ?
Alors, il y aurait un voire deux neurologues. L'infirmière de suivi post-AVC qui du coup pourrait former au niveau des facteurs de risque de récidive de l'AVC, et on est à la recherche d'un kiné qui serait du coup intéressé, puisque bien évidemment on part totalement bénévolement et on prend le déplacement à notre charge. Donc du coup un kiné qui serait intéressé pour une action bénévole humanitaire Bon, l'invitation
est lancée.
Vous avez le message subliminal.
Est lancé. Donc, ça serait d'abord une semaine sur place.
Oui.
Là, vous n'avez pas de lien avec le personnel médical. Faites pas des visios.
Alors, la question s'est posée. On s'est posé la question de, vu qu'on peut pour l'instant pas se rendre sur place, est-ce que on démarre un accompagnement en visio? Et on avait décidé d'attendre, d'être déjà sur place, de créer déjà du lien et du relationnel avec les équipes, on va dire, sur place, avant d'envisager des contenus de formation. Donc c'est vraiment l'idée, hein, c'est de poursuivre cette formation, même à distance, en visio. Mais on a préféré déjà, en fait, être sur place, parce que c'est compliqué. Alors déjà, c'est compliqué de parler de métiers qui n'existent pas. Mais en plus, en parler à distance, ça nous semblait pas être les meilleures conditions, tout simplement. Donc, on a préféré attendre quelques mois supplémentaires, y aller une semaine et ensuite mettre en place des choses en visio.
Et donc là, ça serait centrer votre intervention vraiment sur la question de l'AVC.
Exactement. Pour l'instant, à l'instar de démarrer par le pays avec lequel on avait déjà des partenaires, et bien du coup, on démarre avec
ce que vous maîtrisez le mieux.
Avec ce qu'on maîtrise le mieux. Et puis, par la suite, quand l'équipe s'agrandira avec d'autres spécialités ou autres, pourquoi pas continuer sur la même lancée.
Alors justement, j'allais vous dire de quoi vous avez besoin aujourd'hui. Donc d'un kiné qui aurait envie de partir en Guinée bientôt, mais on ne sait pas encore trop en fonction de la conjoncture. Et puis pas juste pour partir une semaine en Guinée. J'imagine que vous avez envie d'avoir un petit peu dans le projet. Vous avez besoin de quoi d'autre?
Alors en termes humains, on aurait besoin et on serait vraiment hyper heureux d'accueillir des personnes plus spécialisées dans tout ce qu'on maîtrise pas non plus, donc la communication. Une des choses qu'on aimerait bien faire en 2023, c'est vraiment avoir un site complet et à notre image qui reprenne bien tout, donc dans tout ce qui est web développement. On aurait besoin d'avoir plus de membres actifs, puisque comme nos événements deviennent plus fréquents, ce serait chouette d'avoir plus de membres actifs. Et puis,
qui viendraient donner un coup de main, soit pour conduire des camions, décharger, faire des repas,
faire les événements, etc.
Venir parler de l'assaut.
Pourquoi pas des aides pour tout ce qui est transport, justement, puisque il y a un intérêt pour eux, et puis forcément il y a un intérêt pour nous. Donc voilà, toute bonne âme qui veut bien donner de son temps et de son énergie est quand même bonne à prendre.
Merci beaucoup Delphine d'être venue nous présenter le DSG avec autant d'engagement et d'enthousiasme. On arrive à la fin de cette émission, mais avant de se quitter, comment peut-on vous contacter justement?
Eh bien alors, vous pouvez nous contacter sur les réseaux. N'hésitez pas à nous abonner à nos pages Facebook et Instagram, EDSG Guinée, donc EDSGUINEE. À consulter du coup notre site, même s'il va être en développement et en construction cette année, association edsg.wixsite.com et par mail association.edsg@gmail.com.
De toute façon, sur Internet, on tape EDSG Guinée, on tombe sur votre site Internet.
Au moins sur la page Facebook.
Oui, page
Google et...
Moi, je suis tombée sur votre site Internet.
C'est vrai?
Je
suis ravie.
J'ai tapé EDSG Guinée. Voilà, peut-être que j'aurais tapé juste Guinée. Bon, et je ne serais pas tombée peut-être sur votre site ou EDSG, mais en tout cas, les deux combinés, on tombe. Et dans votre site, vous mettez notamment des photos.
Oui.
Des réalités sur place de l'hôpital.
Exactement.
Et c'est vrai que on sent qu'il y a quand même besoin d'un gros coup de main,
exactement,
notamment dans tout ce qui est matériel médical et paramédical. J'ai été ravie de partager cette heure avec vous.
Et plaisir partagé.
Je vous souhaite que tous vos projets déjà en place ou à venir se déroulent comme vous l'espérez. Un grand merci également à Francky pour la technique de cette émission. Tout de suite, retrouvez l'émission Chansomania animée par Seb Dill. Bonne fin de semaine à toutes et à tous.
magnolia. Par autrefois, je ne sais plus comment faire les magnolias.
Vendredi de 19h à 20h, c'est IDFM Latina. 100% musique latine sur IDFM Radio.
Latina.
Salsa, merengue, bachata, kizomba, reggaeton et bien d'autres. La soirée Caliente, c'est IDFM Latina. Tous les vendredis de 19h à 20h sur IDFM.
La radio d'Oubiermet.
J'adore.